Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, exalté à l'idée de vous retrouver pour vos deux heures d'histoire déjantée quotidienne depuis le studio d'un homme qui aujourd'hui serait sûrement censuré, ou pire, se censurerait lui-même, le studio Coluche. C'est pourquoi on s'est dit, et si on consacrait un numéro d'Historiquement Vôtre à la censure à travers l'histoire? Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, en ces temps où le politiquement correct règne en maître, une petite piqûre de rappel sur la liberté d'expression ne peut pas faire de mal. On part aujourd'hui à la rencontre de trois personnages qui ont été censurés. D'abord, le poète Charles Baudelaire et ses fleurs qui ont eu du mal. L'écrivain Jean Tellet qui publie Crénom Baudelaire sera là pour en parler avec nous. Ensuite, le philosophe Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et dont le procès l'a conduit à avaler la ciguë. Et parmi les plus contemporains, Mathieu, vous avez choisi qui ?
Moi, je vous parlerai du comédien Sacha Baron Cohen, dont le personnage de Borat a fait pas mal de remous en Asie mineure. Borat que vous avez pu voir dernièrement en string masque chirurgical sur les culs de bus pour la sortie de Borat 2, un film dont le premier volet avait été étonnamment censuré au Kazakhstan, jusqu'au jour où, réalisant que le tourisme avait explosé, le pays a finalement remercié le comédien.
Mathieu, saluons aussi nos formidables acolytes qui, eux, n'ont jamais... Je le regrette, était censuré.
Oui, sauf la fois où David Castello-Lopez nous avait fait 9 minutes sur les origines du béton armé. À 8h30, on s'était permis de le couper. Faut aussi avoir le respect de l'auditeur quand même.
Oui, vous avez raison, absolument. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
Vous nous racontez les origines de quoi aujourd'hui?
Alors, je vais être préhistoriquement vôtre aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup d'histoire, mais peu de ce qui s'est passé avant. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'une espèce animale, la plus chelou de toutes les espèces animales. Vous savez laquelle c'est? Si je vous dis ça, il y a un animal qui est plus chelou que les autres.
Ah oui, celui qui vit dans l'eau.
Le facochère.
Le pangolin.
L'ornithorynque.
Ah oui, l'ornithorynque est étonnant.
L'animal le plus chelou du règne animal. D'où ça vient, pourquoi il existe? Eh bien, on va le voir ensemble.
Parce que Dieu l'a créé, mon ami. Enfin, là.
Et voilà, c'est ça ma chronique, en fait. Ça allait très vite.
Très bien. La théorie de l'évolution, tout ça, Darwin, on en parlera, Stéphane, une autre fois, visiblement. C'est pas le jour.
Lui, il cuisine pour nous, enfin.
Parce qu'il a aussi des serviteurs, le mec. Il croit pas à la théorie de l'évolution et il a des gens.
Oui, bonjour les amis. Alors moi, je...
On n'a même pas donné votre nom. Olivier Pouls.
Oui, merci.
Pour les origines d'une recette.
Moi, je vais m'intéresser à une recette qui me fascine toujours autant quand on la réussit, c'est la mayonnaise. C'est quand même dingue de mélanger de l'huile et du jaune d'œuf et d'avoir de voir naître sous nos yeux ce produit magique.
Cette émulsion est incroyable.
Qui a bien pu avoir l'idée d'inventer ce truc-là? Et puis surtout, comment la réussir à tous les coups?
Il faut avoir un bon coup de main quand même. Hein. Il faut avoir une poigne virile.
Mais je vous donnerai le truc pour ne jamais la rater.
C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, mais à la maison, on n'avait pas réussi. J'avais pas réussi à monter la mayonnaise. Et Stéphane, c'est une dame exceptionnelle, au bagout incroyable, un peu excentrique aussi parfois.
Elton John?
Presque. C'est Clémentine Portier qu'Elton John.
Dites donc, oui, en effet, moi je connais une espèce bien plus étrange que les ornithorynques. C'est les chroniqueurs d'Europe 1 qui font passer les femmes en dernier.
Ah oui, c'est vrai.
Hein? Et alors, non, et une autre espèce.
Oui, mais
évidemment.
On a gardé le meilleur à la bouche.
C'est ça, vile flattering. Écoutez, en tout cas.
Où on vous flatte, où on vous dénigre.
Vous n'êtes jamais content.
Oui, l'homme n'est grand qu'inexplicable, si vous voulez. Il est plein de contradictions.
Femme encore plus.
Alors, je reviens sur mes terres érotico-historiques aujourd'hui, ça va me faire plaisir. En citant Joseph Calvet dans son traité de la sexualité, aucun événement, ni une guerre, ni une émeute, ni une révolution, ni même un bombardement n'est capable d'empêcher les hommes et les femmes de se livrer au plaisir de la chair. C'est ainsi que sous la terreur révolutionnaire, bien des séances de jambes en l'air eurent lieu dans l'ombre de la guillotine.
On vous coupait la tête, mais pas les jambes.
Écoutez, en effet, en tout cas, à côté de ça, vous, la censure des fleurs du mal, reconnaissez que c'est de la petite bière.
Enfin, Mathieu, même si mes victoires se suivent et se ressemblent, on procédera quand même au quiz dans l'hypothèse Peu probable ou par hasard. Ah, peut-être qu'elle triche aussi. Clémentine arriverait pour une fois à me battre.
Il en faut du culot pour contredire ainsi ouvertement les chiffres.
C'est votre remarquez petit... qu'il a dit qu'elle triche aussi.
Oui, aussi.
Il a le avoué, petit aussi. Il a avoué que lui aussi chose, à mon avis.
C'est un Trumpiste. C'est un Trumpiste. C'est-à-dire,
Trumpiste
je fais du Trumpiste. Oui, Trumpiste jusqu'au bout. C'est-à-dire, d'abord, j'introduirai tous les recours nécessaires. Ensuite. Mais je crois que j'ai gagné quand même.
Oui, bah, oui, une fois. Le quiz, ça sera vers 5h-10, les amis. Pour le moment, partons à la rencontre de notre première victime de la censure du jour, un certain Charles Baudelaire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ces textes étaient pourtant moins choquants que ceux de Booba, et pourtant, lui, il a été censuré. Autre temps, autre mœurs, Stéphane Bern nous raconte Baudelaire.
Il est devenu un poète classique, un monument de la langue française, une terreur pour certains écoliers et bacheliers. Pourtant, Baudelaire n'a pas fait consensus de son vivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que la morale et son arme terrible, la censure, vont bon train dans la société du Second Empire. Mais parmi les auteurs et les artistes inquiétés par le pouvoir, tous ne le sont pas aussi durement sanctionnés que l'a été Baudelaire. Alors, qu'est-ce qui choque tant chez le poète maudit ? Charles Baudelaire naît en 1821 à Paris dans une famille bourgeoise. La France de sa jeunesse n'est pas d'une folle stabilité. Deux révolutions, celle de 1830 et de 1848, ont achevé la monarchie. La Deuxième République n'a pas duré non plus, et l'année 1852 voit l'instauration du Second Empire, celui de Napoléon III. La bourgeoisie urbaine devient de plus en plus puissante et l'ordre, le progrès, la production sont la nouvelle religion de cette France en pleine révolution industrielle. Le beau-père de Charles Baudelaire, le général Aupic, à qui sa mère Caroline s'est remariée un an après le décès de son père, incarne à merveille la figure du bourgeois bien sous tout rapport et ses valeurs patriarcales que l'adolescent déteste, le paternalisme, la discipline, le respect des normes. Charles, très jeune, est déjà révolté contre les traditions, contre les institutions, l'école, l'armée. À 18 ans, il a déjà été renvoyé du lycée Louis-le-Grand. « Je hais ce milieu pédant et hypocrite qui m'a mis au pain sec et au cachot », écrit-il. En 1848, Charles est pris par la ferveur qui agite la jeunesse autour des sujets politiques les plus brûlants. Il lit tout, participe au banquet républicain, veut renverser la société et son culte de l'argent, faire tomber l'armée, la monarchie. Derrière cet engagement ardent, c'est encore l'ombre de son beau-père qui se dessine. Cet homme pour qui poète n'est pas un vrai métier et qui se moque des prétentions de son beau-fils. Pour ne rien arranger, le général vient d'être nommé à Constantinople et il lui a enlevé sa mère adorée. Sur les barricades parisiennes, on entend Charles crier « Allons tuer Aupic !» un fusil à la main. Mais l'avènement du Second Empire n'apporte pas, bien au contraire, le changement escompté. À la fin des années 1850, le régime de Napoléon III est à son apogée, un régime autoritaire et répressif qui réprime la liberté d'expression et fait de la morale publique un pilier de la société. C'est le moment que Baudelaire choisit pour publier l'œuvre de sa vie, le recueil sur lequel il travaille depuis des années, Les Fleurs du Mal. À cette époque, Baudelaire est encore largement inconnu du grand public, mais pas des cercles littéraires. Il a publié deux ouvrages critiques sur l'art et une traduction des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, la grande figure du romantisme américain, qui l'ont déjà fait remarquer des plus grands. Les Fleurs du Mal sont tirées à 1100 exemplaires par son éditeur et ami, Auguste Poulet-Malassis, que Baudelaire surnomme Coco Malperché. Jusqu'à la dernière minute, le poète rature et reprend anxieusement son texte. Pense-t-il déjà à la censure ? Au mois de janvier de cette même année 1857, c'est Gustave Flaubert qui en a subi les foudres. Celle d'Ernest Pinard, plus exactement procureur de l'Empire et véritable porte-parole de son idéologie. Une caricature de l'époque donne une idée du personnage. Pinard, député cafard souffreteux livide, éloquence de vinaigrier. C'est le même Pinard qui s'en prend aux Fleurs du Mal 2 mois à peine après leur publication. Le procès débute le 20 août 1857. Baudelaire a 36 ans. Il est sur le banc des accusés aux côtés de Poulet-Malassis, déjà arrêté quelques années plus tôt pour sa participation aux journées révolutionnaires de 1848. Les deux hommes doivent répondre des délits d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Pinard n'a pas réussi à faire interdire Madame Bovary, pour lui pourtant un abominable livre corrompant l'imagination des femmes et poussant à la débauche. Flaubert a été acquitté et le procès a en outre donné à son roman une publicité inespérée. Mais pour Charles Baudelaire, c'est une autre histoire. Quand Flaubert louvoie autour des interdits par la suggestion, par l'ironie, Baudelaire, lui, s'en prend frontalement aux sujets les plus sensibles. La religion, les mauvaises mœurs. On lui reproche ses offenses à la pudeur, son obscénité, son réalisme grossier. La critique du Figaro résume le sentiment général à l'époque. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect. L'ouvrage, c'est vrai, est subversif, radical, en rupture avec les thèmes classiques de la poésie romantique. Les rues sales de Paris ont remplacé la nature. Baudelaire cherche la beauté, y compris dans le mal. Le ton est dur, agressif, et le miroir que le poète tente à son lecteur, à l'homme en général, n'est pas flatteur. C'est un homme lâche, oisif, mélancolique, qui se dessine, et toute l'hypocrisie de cette société que Baudelaire vomit. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Et encore, chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Baudelaire perd son procès. Il est condamné à 300 francs d'amende et 6 poèmes sont interdits. Le jugement ne sera cassé que presque 100 ans plus tard, en 1949. Baudelaire n'avait pas envisagé une telle sentence, car au-delà des termes crus et des thèmes polémiques, le poète ne cherche pas à choquer le bourgeois. Il faut, pour s'en rendre compte, plonger dans le cœur de Baudelaire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, on l'a vu, Baudelaire a été censuré, c'est Fleur du Mal en tout cas. Il sort profondément affecté du procès qu'il a condamné à une lourde amende et surtout a amputé son recueil de 6 poèmes. Mais si le but du poète n'était pas de provoquer, comme vous venez de nous le dire Stéphane, que cherchait-il vraiment ?
Disons que nous avons vite fait de Baudelaire un écrivain de la bohème, un décadent. Il est vrai que Charles Baudelaire croit davantage au plaisir terrestre qu'au paradis après une vie de bon chrétien. Il contracte la syphilis auprès de prostituées et c'est en se soignant avec des traitements lourds qu'il en vient à la drogue et au paradis artificiel. Le poète est un dandy qui aime les belles choses et dépense sans compter, renouvelle les meubles de ses appartements à un rythme effréné, il hypothèque même ses terres pour éponger ses dettes et se trouve condamné, sous tutelle comme un enfant, une bonne partie de sa vie. On dit de Baudelaire qu'il est bizarre, un qualificatif qu'il adore et qu'il recherche en se couchant sous son lit ou en proposant aux gens qu'il rencontre pour la première fois de venir prendre un bain avec lui. Même ses vêtements sont étranges, jamais à la mode du temps. Son visage rasé quand tout le monde porte la barbe. Pour autant, ces fleurs maladives, comme il les appelle, ne se résument pas à un éloge du péché et des mœurs dissolues. Baudelaire est avant tout un rêveur, un mystique, un poète déchiré entre sa quête d'infini et sa condition terriblement limitée d'être humain. C'est cette impossibilité d'atteindre l'idéal qui le plonge dans la mélancolie, le fameux spleen, mais aussi dans une forme de rage. Le Second Empire, qui glorifie tant la science et le progrès, croit pouvoir élever l'homme au-dessus de sa condition de mortel. Mais Baudelaire sait, lui, qu'il n'en est rien et que le temps est compté. Le poète dit lui-même que son livre est atroce, mais il défend l'idée que la poésie n'est pas là pour édifier les âmes. Pendant son procès, il écrit à son avocat. Cette morale-là irait jusqu'à dire, désormais, on ne fera que des livres consolants et servant à démontrer que l'homme est né beau et que tous les hommes sont heureux. Abominable hypocrisie. En 1866, les poèmes supprimés sont publiés à Bruxelles. Baudelaire travaille à une deuxième puis une troisième version du recueil qui restera inachevée. Pourtant, malgré les efforts du procureur Pinard à les écraser, les Fleurs du Mal ont traversé les siècles et demeurent dans leur version non censurée l'un des textes de poésie les plus imprimés encore aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Baudelaire, nous avons la chance de recevoir un auteur qui, lui, n'a jamais été censuré. Bonjour Jean Tellet.
Et bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Jean. Vous êtes un romancier qui aime notamment raconter les grands personnages qui ont marqué l'histoire, et les poètes en particulier. On se souvient de Rainbow pour Rimbaud, O Verlaine, ou Je François Villon. Pas François Fillon, hein Mathieu.
Ou François Villon.
Sans prix Stéphane. Cette fois,
je crois que ça serait intéressant aussi. Il faudrait lui consacrer un ouvrage.
C'est
pas un poète maudit, rassurez-vous. Cette fois, c'est à Baudelaire que vous consacrez votre dernier roman, Crénom Baudelaire. Crénom, c'est le dernier mot qu'il a prononcé, qui vient de paraître aux éditions Miel et Barreau, une nouvelle maison créée par vos éditeurs que vous avez donc suivi. Bravo. Vous vous intéressez toujours à des personnages que vous appréciez, mais là, avec Baudelaire, c'est pas tout à fait le cas. Vous aimiez sa poésie, mais à vous lire, vous n'aimiez pas spécialement l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange chez lui, Jean?
Ah ben, il a rien fait pour être agréable avec qui que ce soit, Baudelaire. Et ce qui me gênait, c'était que à quel point il était misogyne, mais misogynie mais poussée à la folie, où le pire des beaufs n'oserait pas dire des trucs qu'il a dit. Tout à l'heure, vous avez dit que Baudelaire écrivait des choses moins choquantes que Bouba. Eh ben moi, je crois le contraire.
C'est le contraire, oui.
Je crois le contraire, parce qu'il y a quand même un alexandrin de Baudelaire. L'alexandrin est parfait. Six pieds pour un hémistiche, la césure au bon endroit, et six pieds pour l'hémistiche derrière. Mais l'alexandrin dit de la nécessité de battre les femmes. Je ne sais pas s'il y a rappeur qui a déjà écrit un truc aussi choquant, quoi. Mais il avait envie de ça, d'être le plus...
Mais il le pensait ou il voulait choquer?
Je crois qu'il ne le pensait pas. Il voulait absolument choquer, et une de ses devises était « droite au pire ». C'est-à-dire qu'il fallait dire ce qui était insupportable. Et d'ailleurs, à un moment... Il a écrit « Avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. » Voilà, c'était ça Baudelaire. Et donc absolument désagréable et tout. Mais en écrivant le livre, et puis les gens qui le lisent me disent ça aussi, peu à peu on finit par s'attacher à lui, parce qu'on finit par avoir de l'empathie, de comprendre à quel point c'était finalement un mec malheureux, et tellement, tellement sensible. À la fin de sa vie, il disait par exemple « Maintenant, un homme qui marche derrière moi dans la rue, un chien ou un enfant que je croise me donne envie de m'évanouir. » Il n'était que sensibilité.
C'est étonnant d'entendre parler de Baudelaire comme ça, parce que c'est une figure un peu sacrée aujourd'hui. Et parler de l'homme qu'il était, c'est un peu nouveau de voir que c'était un sale type, on peut le dire. Que peu importe, c'était un grand artiste, mais ça pouvait être un sale type. Comment vous positionnez sur ce grand débat qu'on a eu ces dernières années avec Michael Jackson, avec Woody Allen, entre l'homme et l'artiste? Est-ce qu'on s'en fout finalement de ce qu'il était, ou vous n'arrivez pas à vous en détacher du fait que c'était quand même un misogyne, par exemple, entre autres? Ça gâche l'œuvre ou pas?
Pour plein de gens, sans doute. Mais moi, dans ce livre, je voulais y aller, vraiment raconter. Et j'ai lu évidemment tout ce que je pouvais comme biographie, dont une de genre de 900 pages de Claude Pichois et tout, qui dit dans un moment dans sa biographie, ce n'est pas ici qu'on parlera de cette fameuse affaire du crénom qui donne pas une bonne image de Baudelaire et tout. Comment ça, on ne va pas en parler? Et moi, évidemment, j'y vais, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, 15 mars 1866, il sortait de l'église Saint-Loup à Namur avec son éditeur et un jeune peintre belge, et il a loupé la marche en passant le portail, et il est tombé sur le front en disant « Crénom !» Comme si moi je renversais ma tasse de café et que je faisais « Oh merde !» Et il est resté bloqué sur ce mot jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Et se dire que avoir été un aussi grand poète et terminé par un mot aussi con, c'est quand même vraiment pas de bol. Mais en même temps, après la vie qu'a eu Baudelaire, finalement terminé en disant la contraction de « Sacré nom de Dieu », il n'y avait pas mieux à dire, quoi.
Alors, on va continuer à parler de nos censurés de l'histoire, et de Baudelaire en particulier, avec notre invité Jean Tellet sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Messieurs les censeurs, bonsoir. C'est notre thème cet après-midi. On parle de ces personnages de l'histoire qui ont été censurés d'une manière ou d'une autre. Et là, on parle de Baudelaire avec Jean Tellet, qui publie justement Crénom Baudelaire.
Et justement, alors, je recommande le livre de Jean Tellet parce que c'est un Baudelaire rock, même punk, qu'on découvre. Hein. Baudelaire a écrit Les Paradis Artificiels et Le Spleen de Paris, mais Les Fleurs du Mal restent le grand recueil de sa vie. Il est l'auteur d'un livre à la postérité immense. J'ai même vu qu'on a réédité son manuscrit, c'est-à-dire avec les ratures, etc. De cette œuvre naîtra le symbolisme. Est-ce qu'au fond, c'est pas ce dont rêve tout auteur, tout poète, que son œuvre reste au-delà de sa propre vie?
Je sais pas. Je crois qu'il s'en foutait. Et contrairement à tous les artistes, et moi y compris, si on peut le considérer comme un artiste, on a tous envie d'être aimé. Tandis que Baudelaire avait envie d'être détesté. C'est une drôle de perversion mentale. Et il voulait choquer tout le temps étonner. Et à un moment, vous l'avez dit, Stéphane, les gens disaient de lui, Baudelaire rentrant le soir, doit se coucher sous son lit pour s'étonner lui-même. Il fallait qu'il soit habillé d'une façon choquante, il fallait que tout ce qu'il dise soit provocateur, et par exemple même son accoutrement, c'est quand même un poète qui se baladait avec les cheveux teints en vert, avec un boa en plume d'autruche couleur fuchsia autour du cou, qui tenait un mouton dont il avait fait teindre la laine en rose en laisse, et ça a été le premier punk sur Terre. C'était pas un punk à chien, c'était un punk à mouton. Et puis il a fait un truc, si je devais garder une image de Baudelaire, ce serait celle-là, c'est que pendant les travaux d'Haussmann, qui refaisait tout Paris, la nuit il aimait venir au bord des chantiers, et à la lumière d'un réverbère il y avait toujours sur les chantiers au bord un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain à détruire des façades d'immeubles, et là Baudelaire il s'allumait un cigare. Et il disait, pour voir, pour connaître le plaisir de l'anxiété, pour risquer sa peau. Et pour moi, Baudelaire, c'est ça. C'est un mec qui s'allume un cigare près d'un tonneau de poudre.
Mais en même temps, ce qui est choquant, au fond, c'est que dans ce monde industriel, enfin, la révolution industrielle du Second Empire, cette bourgeoisie triomphante, c'est que lui-même refuse ce monde-là. Au fond, aujourd'hui, il nous paraîtrait, il se promènerait dans les rues de Paris avec cet accoutrement, ça nous paraîtrait, on dirait, bon, c'est un original, mais ça choquerait pas, comme ça pouvait choquer à l'époque.
Ah bah oui, ben c'était au milieu du 19e siècle, donc évidemment que c'était très surprenant pour tout le monde. Mais c'est un mec d'un culot incroyable, ouais. Il allait au bout du bout, et c'est ça, toujours pareil, droite au pire, et en même temps, s'il y a un recueil de bandes dessinées, j'allais dire, de poésie à lire,
c'est celui-là.
Les Fleurs du Mal, c'est le chef-d'œuvre de la poésie.
Pour revenir à la censure,
est-ce que c'est pas choquant, oui,
qui le frappe à l'époque, Stéphane, pardon, sur 100 poèmes, 13 sont attaqués en justice. Mais qu'est-ce qui choque tant à l'époque dans les poèmes, en termes de littérature? On a du mal à comprendre ce qui est si choquant dans Les Fleurs du Mal aujourd'hui.
Et donc il a été effectivement attaqué pour outrage à la morale publique et tout, mais aussi pour mise à néant des chers croyances du christianisme. Par exemple, il y a un poème de Baudelaire qui s'appelle Le Reniement de Saint-Pierre, et dont le premier quatrain est ce que je vais dire, si je m'en souviens bien. Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Il parle de Dieu en disant comme un tyran gorgé de viande et de vin.
Ah oui, ça ne passe pas.
Là, Baudelaire, il écrirait ça en mettant le nom d'Allah. Il peut plus aller à la boulangerie sans huit gardes du corps, quoi. Et puis son poème, le dernier vers, c'est Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension. Il a bien fait. Donc c'était hyper choquant. Et voilà, quoi.
Est-ce que des gens l'ont défendu, ou alors à part Malassis, enfin son éditeur évidemment, mais est-ce que il y a des gens se sont élevés pour défendre, pour la liberté d'expression, parce que il y a l'empire autoritaire, puis ensuite il y a l'empire libéral où on crée les syndicats, la liberté de la presse, etc. Mais est-ce qu'il y a des voix qui sont des gens qui ont soutenu Baudelaire?
Très peu, mais Baudelaire avait très peu d'amis parce qu'il était tellement infect avec tout le monde. Mais ceci dit, Flaubert l'a soutenu, et Manet aussi. Manet a dit, vous êtes neuf dans une poésie vieille. Poulet-Malassis avait un associé qui était son beau-frère, qui s'appelait Eugène Debroise, qui reprochait à Baudelaire, il dit, mais pourquoi vous écrivez des poèmes tordus et scandaleux comme ça, pourquoi vous faites pas comme vos confrères, vous ne célébrez pas l'antique? Et Baudelaire répondait, et où les ont-ils connus, les antiques? Est-ce qu'ils voient passer des gens avec un péplum sur le dos dans les rues? À quoi répond la forme grecque dans notre temps? N'avons-nous pas d'autres passions, d'autres mœurs, d'autres vices à rimer? Une lettre de paysan sans orthographe est plus humaine que toute leur fausseté. Voilà, voilà, c'était ça. C'était... Ouais. Mais non, il avait très très peu d'amis, bien
sûr.
Il avait
peu d'amis. Un mot d'amour avec vous, Jean Tellet, quand même. Sa plus belle histoire d'amour reste celle avec Jeanne Duval.
Ouais.
Vous écrivez que sans Jeanne Duval, il n'y aurait pas de Charles Baudelaire. Pourquoi ?
Mais oui, parce qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de poèmes inspirés par Jeanne Duval, dont il a dit d'elle explosion de chaleur dans ma noire Sibérie. Et ce qui lui plaisait surtout dans Jacques Duval, c'est qu'elle était choquante. Lui mesurait 1m65, elle 1m84. Elle était métisse pratiquement noire à une époque où il y avait encore l'esclavage en France. Et il adorait l'emmener dans des restaurants comme la Tour d'Argent et tout, habillée comme une drag queen, couverte de bijoux.
Avec le mouton ou pas?
Oui, peut-être bien avec le mouton aussi.
À la Tour d'Argent, on le mangeait. Voilà.
pour choquer tout le monde, quoi. Ça faisait partie aussi. Les gens se disaient, mais c'est quoi ce type qui se balade avec une grande noire? Et ça fait partie des trucs formidables de ce mec. Ils avaient des rapport très 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 violent, et Jeanne Duval disait de Baudelaire, avoir une relation intime avec lui, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et lui disait, moi les femmes je les gâche, il adorait faire dire que des trucs comme ça, quoi.
En tout cas, vous le rendez passionnant, attachant, et on se passionne pour votre Baudelaire. Crénom Baudelaire, Jean Tellet, je rappelle, c'est le titre de votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Miel et Barreau. Je crois que vous êtes vraiment dans les meilleures ventes et c'est mérité. N'hésitez pas d'ailleurs à contacter vos libraires pour vous le procurer. Ça s'appelle, je n'ai pas trouvé la formule française pour dire click
oui.
and collect.
Eh bien, je sais,
au Québec, ils appellent ça la cueillette.
Oh, c'est beau,
ben voilà. Super beau.
C'est beau.
Bien, allez cueillir les fleurs du mal chez votre libraire en
ligne. Ça tombe bien avec le titre.
Ça tombe
de
bien,
ce livre.
Absolument. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Télé.
Merci à vous deux.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. La preuve, Clémentine Portier-Kaltenbach est avec nous.
Vous allez être satisfaire, parce que là, je récupère pleinement ma case érotico-historique.
Ah, voilà.
Et je commence de façon flamboyante en citant un extrait d'un livre intitulé « Les histoires d'amour, l'histoire de France ». C'est Guy Breton, vous savez, c'est vraiment le spécialiste de la question. Et dans un chapitre intitulé « Quand l'amour était sans culotte », hein, ça en dit long sur ce qui suit, il évoque les orgies extravagantes organisées dans les années de terreur révolutionnaire.
Parlez-nous de ça.
Hein? Alors, aussi bien dans les prisons, par les aristocrates condamnés à passer sous la lame impitoyable de la guillotine, que chez les sans-culottes qui allaient assister à ce spectacle. Et tout ça, dans toute la société, sur fond de terreur, eh bien, ça crée une espèce de tension érotique majeure. Hein. Et alors, on s'aimait évidemment d'autant plus furieusement qu'on ne savait pas de quoi serait fait le lendemain. Et Breton évoque notamment des réunions chez une certaine marquise de Verrières dans le Marais en avril 1793. Un soir, Madame de Verrières invita 30 personnes des deux sexes connues pour leur ardeur et leur dit « Mes amis, nous serons peut-être morts demain, morts sans avoir goûté tous les plaisirs, toutes les jouissances. Et pourquoi vous êtes ici ce soir ?» S'ensuit une nuit entière consacrée au plaisir. Au petit matin, ils sont tous arrêtés. Allez hop, à la conciergerie. Et le comte de Breuil, qui raconte tout ça dans ses mémoires, prétend aussi que Madame de Verrières continua à recevoir l'hommage de ses compagnons d'infortune jusque Zéhi, y compris dans la charrette qui la mena à l'échafaud. Alors là, moi là, j'ai quelques doutes. Je pense que ça, c'est quand même, Stéphane, vous qui ne connaissez
pas. Il y avait du monde.
Vous connaissez Guy Breton. Guy Breton, il aime bien en rajouter une louche. On n'imagine pas la malheureuse Madame de Verrières en train de se faire son affaire dans la charrette.
Vers l'échafaud.
Vers la rue Saint-Honoré. Non, là, je crois qu'il y a quand même un peu.
Avant de se faire raccourcir, enfin, je veux dire, avant de se faire couper la tête.
Vous avez tant tenté un jeu de mots avec
oui, là, là,
qu'est-ce qui sera allongé, qu'est-ce qui sera compliqué, mais vous ne l'avez pas trouvé.
C'était
un peu délicat. Une belle tentative, Stéphane.
Il vaut mieux éviter. Hein. Alors, dans la plupart des prisons révolutionnaires, il semble que quand même, il y a en effet eu des scènes du même genre. À la conciergerie, nous dit-on, le bruit des baisers et des soupirs parvenait jusqu'au fond des corridors sombres.
Et parce qu'on mettait les hommes et les femmes dans les mêmes cachots.
Oui et non, mais si vous voulez, on pouvait toujours s'y retrouver. Alors, par exemple, à Paris, on racontait que le palais du Luxembourg, l'actuel Sénat, hein, qui était transformé en prison, était désormais le plus grand bordel de la capitale. Et dans une autre prison, Port-Libre, ça vous dit rien, Mathieu, non. Parce que Port-Libre, c'était Port-Royal.
Ah,
et
Port-Royal,
on pouvait plus appeler ça Port-Royal, sous la Révolution. Port-Libre. Donc ça s'appelle Port-Libre. Et là, les détenus jouissaient d'un jardin où les parties de jambes en l'air se déployaient toute la nuit. Parce que les gens étaient complètement traumatisés et désaxés par l'imminence de la mort. Une certaine Madame de Saint-Amarante, ex-tenancière de Tripot, y fut emprisonnée. Elle ne devait pas s'appeler plus Madame de Saint-Amarante, plus que vous et moi. C'est pas grave. Elle sut plutôt ne décevoir personne. En 2 mois et demi, dit un ancien détenu, elle se donna sans compter et fit le bonheur de tout le monde.
Hein. C'est beau, cette générosité.
Il y avait des exemples d'amants condamnés qui arrivaient donc quand même à se retrouver la veille de leur exécution. Le lendemain, ils embarquaient ensemble dans la charrette. Et puis pour ceux qui n'étaient pas condamnés au même moment, mais qui voulaient mourir ensemble, suffisait de crier « Vive le roi !» Vous étiez aussitôt embarqué avec la fournée du moment et vous pouviez mourir avec la personne que vous aimiez. En ces temps aventureux, où le cœur battait comme un tocsin d'alarme, le roman naissait de toutes parts et expirait en tout lieu. C'est un des frères Goncourt qui écrit ça. Alors parfois, ça finissait un petit peu moins tristement quand même. Sous la terreur, des jeunes filles ou des jeunes femmes nobles n'hésitaient pas à contracter des mariages civils avec des sans-culottes. Parce que, comme de toute façon, il y avait eu le mariage révolutionnaire n'était pas reconnu par l'Église catholique. Mmh. Donc, si vous pouviez épouser un sans-culotte, ça vous sauvait la vie. Ouais. Vous évitiez de passer à la guillotine. Puis, ces jeunes femmes se disaient,
c'est pas reconnu,
on se remariera plus tard. Alors, à une jeune fille de 18 ans, Marianne Bosson, un de ses gardiens, Étienne Forestier, propose de l'épouser. Elle accepte. On dit d'ailleurs que ce fut un beau mariage. Par amour pour Marianne, Étienne va reprendre les pratiques religieuses. Et souvent, on l'entendra dire par la suite, je lui donnais la terre, elle me donne le ciel. Et oui, il l'a sauvé de la guillotine. Dans son Histoire des Françaises, Alain Decaux raconte cette autre anecdote. Le 10 février 1794, le citoyen Hénaud, garde national de son État, qui gardait l'échafaud sur la place de Fontenay-le-Comte, est bouleversé parce qu'il voit une jeune fille de 18 ans qui s'apprête à être guillotinée. Elle se nomme Rosalie Duchesne de Denant. Et selon un droit issu d'une tradition ancestrale, donc si quelqu'un offrait d'épouser un condamné, ça se passait déjà au Moyen-Âge avec les pendus. Il ou elle était sauvé. Donc ce monsieur, le citoyen Hénaud, propose à la jeune aristocrate de l'épouser pour la sauver. Elle accepte, sous les acclamations de la foule, elle est sauvée. Alors pourquoi cette anecdote est-elle rentrée dans l'histoire? D'abord parce que dans ces heures sombres et sanglantes, où la justice passe à tour de bras, quand il y a une fin heureuse, les foules, il y a une espèce de soulagement très intense, et ça marquait forcément les esprits. Mais si cette histoire a surtout marqué les mémoires, c'est parce que ce couple dont je viens de vous parler, là, le citoyen Hénaud avec sa jeune fille Rosalie Duchesne de Denant, eh bien, il est à l'origine, 4 générations plus tard, d'un futur maréchal de France, Jean-Marie Delatte de Tassigny, qui signa pour la France l'acte de reddition allemand à Berlin en 45. Et oui.
Heureusement que ce coup de rein a eu lieu.
Exactement. C'est donc du mariage.
Vous salissez tous.
Vous avez tout à fait raison, Stéphane.
C'est comme ça qu'on disait autrefois.
Un coup de rein. Ou en 3 coups de cuillère à peau, là. On dit que c'est la naissance d'Henri IV. Bon, enfin, c'est autre chose. C'est Stéphane qui nous racontera ça un jour dans le fin mot de l'histoire. En tout cas, c'est du mariage d'une aristocrate condamnée à mort et d'un garde national sans culotte que descendait l'un des libéraux de la France. Comme quoi, voyez, sans culotte, aristocrate, pour paraphraser la chanson de Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français.
Magnifique.
Merci Clémentine. Elle retombe toujours sur ses pattes. C'est une...
sur mes pattes.
Comme un chat.
Oui, comme un chat. Voilà, c'est l'exemple qu'on va prendre. Très bien, Stéphane. Très bien.
Merci Clémentine.
Clémentine, vous restez évidemment avec nous pour le quiz qui vous oppose, comme chaque après-midi, à Stéphane, un moment qu'il redoute de plus en plus. Non. Comme le cheval terrorisé en concours, il arrive même parfois qu'il se cabre et refuse l'obstacle.
Oh non. Ah non. Ok, non. Je ne joue plus.
Allez, en selle, champion, en selle.
Yeah.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chers auditeurs, nous y sommes. Moment savoureux pour vous, cruel guet-apens pour lui. Chaque après-midi, nous testons les connaissances historiques de Stéphane Bern en lui opposant celles de Clémentine Portier-Kaltenbach. On appelle ça le quiz, une compétition à laquelle Stéphane participe avec de plus en plus de réserve.
Eh ben non, je ne veux pas être traîné dans la boue sur Europe 1, vous comprenez ?
Je comprends bien, mais c'est ainsi. Jouons à Bern to Bern. Stéphane, première question pour vous, on part dans l'Égypte antique. C'est souvent une région qui vous a porté chance. Oui, il me semble que vous avez eu 2-3 bonnes réponses. Les momies de l'Égypte antique sont pour beaucoup dans la fascination que cette période de l'histoire exerce sur nous. Mais quand même, dans le rituel funéraire de l'embaumement, il est prévu qu'un bout de votre cervelle sorte par vos oreilles. Vrai ou faux ? Ça vous fait rire, mais est-ce que c'est comme ça qu'on procédait, d'après vous ?
Une cervelle, attendez, qui sort ?
Par les oreilles.
Oh Stéphane, je connais la réponse, mais Mathieu me fait des gros yeux.
Si vous embaumez un ami, Stéphane, chose qui peut arriver, ça vous arrivera peut-être. Comment, vous ne pouvez pas laisser la cervelle dedans, si tant est que l'ami en question en est une. Il ne faut pas la laisser dedans, sinon ça pourrit. Il faut l'enlever. Comment l'extraire ?
Ça ah bah oui, donc il faut que ça sorte. Par l'oreille, oui. Bah oui. Mais pourquoi pas par le nez ? Oh là 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 là. Non, mais alors c'est l'un ou l'autre, quoi.
Il y a peut-être d'autres orifices, mais je ne sais pas. À vous de les compter et de... Voilà.
Par la bouche, par les yeux.
Tout à fait. Voilà d'autres orifices. Julien Bugier, c'est l'heure du journal.
Mais Stéphane, vous n'avez pas lu dans votre enfance Sinoué l'Égyptien, qui est quand même un des plus beaux romans historiques de Mika Waltari. Et tout le rituel de l'embaumement est raconté. Et puis Philippe Charlier nous a raconté ça 10 fois dans des secrets
d'histoire.
Stéphane,
je vous donne 3 secondes pour répondre à la question. 3 secondes.
Moi, je croyais que...
Suivez votre intuition.
1.
Ben, je dirais non, parce que on scellait tout, je crois. Il ne fallait pas que ça sorte.
Vous avez...
Ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. Et non, c'était par le nez, Stéphane. Effectivement, vous avez raison, donc c'était faux, c'était pas par les oreilles. Ouais. L'historien grec Hérodote l'a raconté en 500 avant Jésus-Christ. Si on procède à la momification dans les règles de l'art, on retire une partie du cerveau par les narines avec un crochet en fer. C'est l'excérébration. Bon appétit si
mais
vous
oui,
attaquez
le goûter. Oui, l'exérèse du cerveau, bien sûr. Oui, parce que sinon, ça devient le siège de bactéries et tout se décompose. Donc on doit enlever en particulier toutes ces matières molles dans le corps avant de pouvoir procéder.
Arrêtez.
On met le corps ensuite dans du natron et tout. Là.
Ça me donne... C'est pour ça, vous savez, pardon, mais quand on fait les tests PCR, et qu'on vous enfonce les écouvillons là, dans le nez, et ben moi, parfois, j'ai l'impression qu'on me... On tripote le cerveau.
On se prépare.
Oh mon Dieu,
à vous momifier.
J'aimerais pas.
Pour votre entrée au Panthéon,
à l'extraction du cerveau par le nez.
Clémentine, vous ne connaissez peut-être pas le groupe Franz Ferdinand. Ce groupe de rock britannique a choisi son nom en hommage à l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Vrai
non,
ou
mais
faux ?
Là, des questions simples, elle.
Moi, je commande pas l'Eurovision, hein.
Rarement fait l'Eurovision, hein.
Bah oui, mais enfin, j'y connais pas grand chose, alors. Et en hommage à François Ferdinand.
Vous savez qui c'est, celui qui est mort.
Autriche. Oui, bien sûr.
Assassiné. Oui, bien sûr.
Moi, je le crois tout à fait capable c'est un côté un peu subversif. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand Ferdinand, faire un Ferdinand d'Espagne et tout. Non, j'aime bien cette idée.
Vous aimez bien?
D'un groupe de musical cultivé.
Vous avez gagné.
C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas tout à fait pour ça qu'ils ont choisi vraiment ce nom. Ils ont choisi ce nom parce qu'ils ont assisté à une course de chevaux dans laquelle l'un des chevaux s'appelait Archiduc François Ferdinand.
Je
rappelle que son assassinat en juin 1914...
28 juin 1914.
Est considéré, je le rappelle pour nos jeunes auditeurs, comme le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Je parle de l'archiduc, pas le cheval. Question numéro 3. Pour vous, Stéphane Bern, le premier dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères. Et c'est au président René Coty qu'on le doit. Vrai ou faux ?
Le pauvre Coty, on lui met tout sur le paletot. Hein.
La fête des mères ?
La prostate, les grands-mères ?
La fête des grands-mères.
Oui, des grands-mères, pas la fête des mères.
Ça m'étonne, ça, Stéphane. Mais non, il me semble que c'est très récent, la fête des grands-mères. On fêtait pas les grands-mères.
Sur René Coty ?
Oh...
Non, j'étais pas. Est-ce que j'étais pas né sous la fête
Faudrait vérifier. Stéphane, d'après vous, est-ce René Coty qui a invité la fête des grands-mères?
Je dirais non.
Vous
moi,
dites
je dirais
faux
non aussi. Ouais, je dis
tout le monde dirait faux.
Bah, je sais pas, ça me dit rien cette fête des grands-mères.
Pour René Coty.
Vous avez gagné.
Et non, il n'a décidément rien laissé dans l'histoire, même pas la fête des grands-mères, ce pauvre René Coty. La fête des grands-mères, on la doit à la marque de café grand-mère, et ce depuis 1987. Ah, en 2008, une étude a été faite sur la fête des grands-mères, elle a un impact significatif sur la vente de plantes d'intérieur, figurez-vous. Question numéro 4, Clémentine. En 1918, pendant la seconde bataille de la Somme, durant la Première Guerre mondiale, pour la première fois, l'armée américaine va se servir du soldat Cherokees pour coder des messages grâce à la langue amérindienne, vrai ou faux?
Oh, je pense que c'est plutôt le conflit suivant, ça. Je ne sache pas que ça soit déjà pratiqué en 14, où en plus les communications radio sont encore assez sommaires dans les tranchées. Moi, je pense que, évidemment, c'est exact, mais c'est lié au conflit suivant. Donc, je dirais c'est faux, ça n'est pas en 14.
Raisonnement pur, limpide, sans bavure, la réponse.
Vous avez perdu.
Ah, patatras, d'accord. Clémentine, le raisonnement était trop beau. Les soldats amérindiens Cherokees de la 30e division d'infanterie américaine ont servi aux côtés des Britanniques. Des anthropologues allemands ont tenté de les comprendre, mais sans succès, pendant le débarquement en Normandie.
Donc c'était déjà le cas, c'est très intéressant ça.
Et exactement, et vous aviez raison, pendant le débarquement en Normandie, 14 Comanches ont fait de même.
Ah oui.
C'est... Je suis désolé de vous l'annoncer, Clémentine, mais l'arithmétique est implacable. Stéphane Bern qui remporte
Stéphane.
Le quiz du jour. Bravo Stéphane, et ce, pour une fois, sans tricher, c'est important de le souligner.
Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Chaque après-midi, on réunit trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, eh bien, ils ont tous été censurés.
Oui, Stéphane, de Socrate à Borat, en passant par Baudelaire, on apporte cet après-midi notre soutien à tous ces artistes ou penseurs victimes de la censure. Un thème, hélas, d'actualité, car en ces temps de politiquement correct, nous sommes nombreux, non pas à être censurés, mais à nous auto-censurer. Heureusement, il reste quelques rebelles, quelques libres penseurs subversifs qui n'ont pas peur de crier tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Heureusement, il reste Stéphane Bern hors antenne. Écoutez.
Ils ont raison, moi aussi je suis scandalisé. Non mais comment on peut fermer les librairies? Je comprends pas.
Oh là là. Il y a autre chose qui moi m'a toujours agacé, c'est les rires dans les émissions. Le chauffeur de salle qui vous dit à quel moment il faut faire oh, c'est insupportable de laisser les gens faire comme ils veulent quoi.
Crotte.
Vous êtes vraiment un ouf Stéphane, un déglingo. Nous verrons si Socrate vous arrivez à la cheville en termes de liberté de pensée.
Oui, enfin on verra. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'une victime récente de la censure. Je crois qu'au Kazakhstan, ils n'ont pas vraiment aimé son film.
C'est vrai que Borat est une comédie hilarante, mais peut-être un peu insultante pour les Kazakhstanais. Disons qu'Olivier Pouls a adoré, les musulmans un peu moins. Le film a été censuré dans 12 pays.
Alors on dit les Kazakhs surtout.
C'est pas faux.
Enfin les Kazakhstanais vous en voudront moins.
Vous avez raison du coup, on parle d'un pays imaginaire où les gens s'appelleraient les Kazakhstanais. Oui.
C'est comme si les... prêt d'y passer vos vacances en tout cas.
Vous aviez dit les... C'était pas dans mes intentions.
C'est comme si vous aviez dit que les Allemands c'était les Allemagninais.
C'est vrai, oui. Les Allemagninais. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est étonnant.
Alors, avec nous, eux ne sont pas censurés d'ailleurs. On s'en donne un cœur joie avec eux. Ce sont nos chroniqueurs dont David Castello-Lopez qui nous raconte les origines, non pas d'un objet familier, mais d'un animal qui n'est pas du tout familier.
Exactement.
L'ornithorynque.
L'ornithorynque, on fait un peu quelque chose de préhistorique et pas d'historique aujourd'hui. On va essayer de s'amuser avec ça.
Oui, alors je vous ai le terme kazakhstanais désigne tous les citoyens du Kazakhstan. Merci à vous.
Oh, on passe à autre chose. Il a vérifié en même temps.
Voilà, on enchaîne. Mais Olivier Pouls. Oh,
vous trichez, vous avez votre téléphone portable allumé.
Oui, j'ai mon téléphone portable. En fait, je me suis posé la question en écrivant la chronique que vous envoyez tout à l'heure. Moi, j'ai écrit Kazakh partout. Et mon correcteur d'orthographe me mettait kazakhstanais. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? cette connerie. Et je suis allé voir, effectivement, c'est écrit que la gentilité du Kazakhstan, c'est kazakhstanais. Donc je sais pas pourquoi on dit pas kazakh, peut-être parce que kazakh ne réunit pas toutes les ethnies du pays.
Mais c'est le peuple, sans doute,
c'est le peuple et la citoyenneté. Et voilà, la citoyenneté n'est pas la même chose. Donc on doit parler des kazakhstanais normalement. On aura peut-être beaucoup de mails à l'issue de cette émission, mais je resterai sur cette
on
théorie.
On est complètement boulé, comme on disait.
Écoutez, merci. C'est une émission où on s'amuse, mais on apprend des choses.
Ah oui, exactement. Et ça, je regrette pas d'être venu.
On les apprend en direct. Dis donc, Pulse, vous croyez être plus intéressant avec votre origine de la mayonnaise?
Bah écoutez, si vous êtes mayonnaisien, vous saurez tout sur les secrets de cette sauce absolument fantastique.
Et puis, si on pouvait se retrouver, les amis, peut-être qu'on trinquerait et on dirait alors chin-chin. Mais pourquoi dit-on chin-chin, Stéphane?
Oui, pourquoi on dit chin-chin? Bah, vous le saurez à la fin de l'émission.
Dans le mot de la fin, de le bien nommé. Lui a trinqué aussi au sens propre du terme et avec de la ciguë. Tout de suite, Stéphane, remontons le temps jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, un temps où la censure pouvait tuer. Le philosophe Socrate en a fait les frais.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est tremblant mais serein qu'il porta la ciguë à ses lèvres, se disant à lui-même pour se donner du courage.
Puis bonne chance surtout.
Stéphane nous raconte l'histoire d'une censure qui finit mal, celle dont fut victime le grand penseur grec, Socrate.
Il est avec Platon le penseur le plus célèbre, l'image même du philosophe. Et pourtant, il n'a jamais laissé de texte. On ne connaît Socrate uniquement parce que ses contemporains ont dit de lui, et surtout par la multitude des textes, des dialogues socratiques que son procès a engendrés. Fallait-il que son discours dérange pour qu'on décide de le faire taire et qu'on en discute encore des décennies après? Socrate évolue dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. La ville est alors un centre culturel bouillonnant, point de rencontre des grands esprits du temps comme Hérodote, l'historien, Hippocrate, le médecin. Socrate y donne des leçons, ou plutôt, il dialogue dans les rues au gré de ses rencontres avec les gens, surtout les jeunes gens. En énerve-t-il déjà plus d'un sous son grossier manteau et avec ses pieds nus? Oui, il ne porte pas de chaussures. Dans cette Grèce antique où le luxe des étoffes et le tombé d'un drapé a toute son importance. En tout cas, il fait déjà largement parler de lui. On le retrouve en -423 dans Les Nuées, une pièce du poète comique Aristophane. Et l'on sait qu'à la même époque, il est le personnage principal d'une autre pièce. C'est donc une personnalité populaire et qui déjà pose des problèmes. Car on ne peut pas dire que Socrate soit à son avantage dans la comédie d'Aristophane. C'est une sorte de gourou dont les étudiants sont les fidèles, à qui il fait d'ailleurs payer ses enseignements, alors que le vrai Socrate dispense ses savoirs gratuitement. On vient le voir pour apprendre à manier le discours à des fins pas toujours honnêtes. Cette figure de Socrate n'est pas du tout celle que l'on découvre dans les textes de ses disciples, et notamment chez Platon. Sans doute Aristophane cherche-t-il à pointer du doigt les sophistes, ces nouveaux intellectuels qui apparaissent en ce 5e siècle et manient l'art de la rhétorique et qui, eux, font payer leurs enseignements. La pièce est peut-être même plus largement une critique amusée du rôle de l'intellectuel. D'ailleurs, aux yeux des Athéniens, Socrate est de toute façon lié à ce milieu de la sophistique. Pour les suiveurs du philosophe, la pièce lui cause néanmoins du tort. Platon, dans son Apologie, établit un lien direct entre les nuées et le procès qui va bientôt voir comparaître Socrate. Car si Aristophane a choisi d'en rire, le libre penseur n'amuse pas tout le monde à Athènes. Le grand procès s'ouvre en 399 avant notre ère. Il y a là plus de 500 juges chargés de décider du sort de Socrate. C'est Mélétos, un auteur et poète qui s'est rendu sur l'agora et a lancé l'accusation contre lui. On reproche au philosophe d'avoir introduit de nouvelles divinités, de ne pas respecter les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse. Pour comprendre ces attaques contre Socrate dans une ville qui érige la liberté de parole en valeur cardinale, il faut revenir quelques années auparavant. Athènes a vécu un épisode dramatique. Elle a perdu la guerre du Péloponnèse qui l'opposait à Sparte et à ses alliés. À la défaite a succédé pendant quelques mois un régime oligarchique, celui des 30 tyrans. En 403, c'est-à-dire seulement 4 ans avant le procès de Socrate, Athènes a retrouvé sa vie démocratique. Mais le philosophe est assimilé aux défenseurs de l'oligarchie, car ses disciples, et notamment Alcibiade, y ont participé. Un serment d'amnistie empêche néanmoins de le poursuivre pour des motifs politiques. le procès pour impiété serait ainsi un moyen détourné de s'en prendre à lui en contournant la loi. Pendant le procès, Socrate s'amuse de ses juges et de leur jargon. Il refuse le discours écrit pour sa défense, trop juridique et pas assez philosophique à son goût. Il monte à la tribune, mais ne parvient pas à se faire entendre et refuse de faire intervenir des témoins qui pourraient plaider en sa faveur. Plus étonnant encore, alors que Mélétos demande sa mort, Socrate répond par l'ironie et l'humour. « Je propose d'être logé et nourri au Prytané », lance-t-il à l'Assemblée. Le Prytané, c'est un endroit luxueux réservé à ceux qui ont mérité les honneurs de la patrie. En ne proposant pas une alternative crédible au réquisitoire de son accusateur, Socrate coince les juges. Car le système judiciaire est ainsi fait que les magistrats n'ont plus d'autre choix que de suivre le réquisitoire de Mélétos. Si Socrate avait demandé l'exil, il l'aurait obtenu assurément. Mais par sa boutade outrancière, il se condamne lui-même à la peine capitale. Tout de même, un intellectuel condamné à mort dans la cité de la démocratie et de la libre opinion, l'affaire fait grand bruit et ne s'arrête pas, loin s'en faut, à la mort de Socrate. C'est même tout l'inverse, sa disparition marque le début d'un long et houleux débat entre les adversaires du philosophe et ses disciples. Quel besoin de ressasser cette histoire tant de temps après ? C'est bien que la condamnation de Socrate pose problème. Malgré ses grands principes, le pouvoir athénien a voulu museler le philosophe, limiter sa parole, car le philosophe fait peur. En expliquant aux hommes que leurs opinions ne sont pas un savoir, en leur apprenant qu'ils ne savent rien, c'est toute la pensée qu'il remet en cause. Indirectement, Socrate s'en prend aussi au gouvernement de la cité, censé élever les hommes, les rendre meilleurs, mais qui, à la place, les manipule. Finalement, que cherche cet homme qui prétend ne pas faire de politique, mais qui, par sa parole, en fait plus que beaucoup d'autres ? Condamné à mort, Socrate refuse de s'enfuir et accepte de boire la ciguë, ce poison violent réservé aux détenus de Marc et aux hommes respectés de la cité. Elle lui permet de mettre en scène sa propre mort et de marquer dans un geste théâtral durablement les esprits et l'histoire. Sa fin tragique n'a pas tué l'esprit de Socrate, bien au contraire. Elle en fait le père de la philosophie occidentale et pour des siècles et des siècles, la figure de la victime de la censure, de l'ignorance et de l'intolérance.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Socrate, le philosophe censuré, nous donnons la parole librement à Paulin Ismar, auteur d'un livre sur le célèbre philosophe. Bonjour Paulin Ismar.
Bonjour.
Ne bougez pas, on a plein de questions à vous poser avec Stéphane. On revient dans un tout petit instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec nos censurés de l'histoire. On parle de celui qui nous appelait à nous connaître nous-mêmes avec quelqu'un qui le connaît lui, notre invité Paulin Ismar.
Oui, Paulin Ismar, vous êtes professeur en histoire grecque à l'université Aix-Marseille. Vous avez publié il y a quelques années l'événement Socrate chez Flammarion. Alors, pourquoi une fois condamné à mort, Socrate accepte de boire la ciguë de plein gré ? Est-ce que, ce que je disais, il voulait mettre en scène sa propre mort et marquer l'histoire ? Est-ce que vous aussi, vous l'interprétez de cette manière ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de consentement de la part de Socrate à sa condamnation, dans un premier temps, et donc ensuite à sa mort. Comme vous l'avez très bien expliqué, c'est bien le comportement de Socrate face à ses juges et l'impossibilité dans laquelle il place ses juges de devoir en réalité le condamner, puisque cet acte de provocation qui consiste à demander à être nourri au Prytané oblige les juges qui l'ont déjà dans un premier temps considéré qu'il était impie, l'obligent à le condamner à mort, c'est-à-dire à suivre Mélétos. Donc il y a un acte de dissidence très fort de la part de Socrate par rapport aux autorités de la cité, par rapport à ce qu'est la cité démocratique athénienne à la fin du 5e siècle, et en même temps un consentement à sa propre mort.
Mais pourquoi ce consentement ? Est-ce qu'il y avait un but de passer à la postérité ? Est-ce que c'était réfléchi dans ce sens-là ? C'était pour donner une leçon aux hommes ? C'était son ultime enseignement ?
C'est effectivement l'acte de dissidence le plus célèbre de toute l'histoire antique, c'est-à-dire qu'il fait du procès, il fait de sa vie même l'objet d'une confrontation entre ce qu'il considère être la philosophie et les règles qui organisent la vie démocratique. Mais il faut toujours le rappeler, c'est les disciples mêmes de Socrate ne cessent de le répéter. Si Socrate avait demandé à être exilé, évidemment, les Athéniens auraient voté l'exil. C'est le seul cas.
Oui, mais Socrate ne serait peut-être pas aussi légendaire. Il ne serait pas considéré comme le père de la philosophie. Il n'y aurait pas eu tant de débats au sujet de cette condamnation et donc de ses pensées.
C'est sa mort qui a donné naissance à un débat parmi les Athéniens et donc la naissance d'un genre littéraire tout à fait spécifique qui sont les dialogues socratiques qu'on assimile à l'acte de naissance de la philosophie.
Oui. Ce qui est moins resté à la postérité, c'est ces dernières paroles. Criton, je dois un coq à Esculape, souviens-toi de payer ma dette, c'est ça?
Oui, alors
ça c'est ce qu'on raconte.
C'est la fin du Phédon de Platon, un des très très grands textes du disciple de Socrate qu'est Platon, où il prête à Socrate ses derniers mots. En réalité, on peut les interpréter de plein de façons différentes. Le plus mystérieux, en fait, c'est l'invocation à ce dieu qui est Asclépios, dieu de la médecine en Grèce ancienne, et on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il intervient à ce moment-là dans le dialogue pourquoi il intervient dans les dernières paroles de Socrate. Mais c'est Nietzsche qui se référait à ces derniers mots pour dire que Socrate n'aimait pas la vie. Qu'en fait, il remerciait la divinité de l'arracher à la vie.
Est-ce que la condamnation en elle-même de Socrate pose problème? Est-ce qu'on comprend, comme Stéphane le disait, on est quand même dans la démocratie athénienne, ça paraît un peu contradictoire cette condamnation.
Ce qui est totalement étrange, mais c'est un cas unique, le cas de Socrate. On n'a pas d'autres penseurs dans l'Athènes de l'époque classique qui ont été condamnés à mort pour leur pensée. En fait, il faut bien voir que c'est un régime extrêmement libéral en termes d'expression de
la pensée. Plus que le nôtre aujourd'hui, par exemple.
Beaucoup plus.
On peut le dire.
Il y a rien qui s'apparente légalement à aucune forme de censure. Et on a, pendant tout le 5e, tout le 4e siècle, de très nombreux auteurs qui écrivent des textes particulièrement violents, hostiles au régime, qui s'en prennent nommément à tel ou tel individu, qui appellent à renverser le régime démocratique, qui ne sont absolument jamais
pourquoi
poursuivis.
Pourquoi lui ?
Il y a aussi de très nombreux auteurs qui tiennent des discours beaucoup plus violents que Socrate à l'égard des dieux, par exemple, qui défendent par exemple des positions athées. Hein. L'athéisme naît en Grèce au 5e siècle. On a des textes athées et ils ne sont pas poursuivis par les Athéniens. Absolue. Oui.
Est-ce que ces mœurs ont joué un rôle dans ou pas du tout?
Ces mœurs, non, sans doute pas. Enfin, ce qui a de toute évidence joué un rôle important, c'était la relation charismatique qu'il entretenait avec ses propres disciples et qui intriguait les Athéniens. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il nouait un lien avec ses disciples qui voulaient devenir comme Socrate ou jouer à être Socrate. Il y a ce terme en grec qui apparaît à ce moment-là, Socratizein, c'est-à-dire jouer à être Socrate. Voilà, socratiser. Et donc, le lien très très fort qu'il avait noué avec plusieurs membres, comme ça, des jeunes hommes de l'élite athénienne, intriguait les Athéniens. D'autant plus, parce que c'est quand même central dans le procès, que nombre de ces jeunes gens ont participé au renversement de la démocratie en 404-403, comme vous l'avez dit. L'idée selon laquelle Socrate était en fait une des têtes pensantes des oligarques qui ont renversé le régime démocratique, c'était évidemment un motif essentiel pour le condamner. Socrate était un adversaire de la démocratie athénienne.
Ce qui est fou, c'est qu'il est perduré. Il a rien écrit de sa vie, mais c'est de lui dont on se souvient.
Oui, enfin en fait, ça tient évidemment à cette immense littérature socratique qui a débuté quelques années après sa mort, et ça tient au génie littéraire de Platon.
Oui, pas de Socrate.
Sans Platon, pas de Socrate.
Pas de Socrate. En tout cas, c'est passionnant. Merci, Paulin Ismar. Je rappelle le titre de votre ouvrage qu'il faut lire absolument, L'événement Socrate chez Flammarion. Et vous venez de publier toujours chez Flammarion avec Vincent Azoulay, Athènes 403, une histoire chorale dans la collection Au fil de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, aujourd'hui, nous saluons le courage de ces artistes qui ont été, chacun en leur temps, victimes de la censure après Socrate et Baudelaire. Vous teniez, Mathieu, dans votre chronique 99% vrai, à nous entretenir d'une victime de la censure plus récente dont la mise au ban est tout aussi injuste.
Oui, Stéphane, Baudelaire, Socrate, mais aussi Brecht, Neruda, Laclos, Steinbeck, Orwell, c'est déjà terrible quand la censure frappe votre plume. Mais c'est encore plus douloureux lorsqu'elle frappe votre string. Or, quelle personnalité mondialement connue et célèbre pour son string, Stéphane?
Le pape?
Non, concentrez-vous, Stéphane.
Non, arrêtez.
Borat, attends, ne blasphémez pas. Je sais que question humour, vous êtes resté Keblo à Fernand Reynaud, mais vous voyez quand même qui est Borat, Stéphane.
Oui, bien sûr.
Ce personnage excentrique, ambassadeur éminemment pittoresque et surtout caricatural du Kazakhstan. Personnage satirique, bien sûr, mais aussi éminemment politique, il ne faut surtout pas s'arrêter au côté string fluo, moustache, testicule apparente de Borat. De même que sous les pavés, il y a la plage, sous le string, il y a un message. Pour le comprendre, il nous faut partir au Kazakhstan. Oui, en tapant sur YouTube musique traditionnelle Kazakhstan, je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Borat Sadiguiev est une caricature de l'image qu'a l'Occident des pays méconnus de l'Est. Pour simplifier, Stéphane, je dirais que la figure de Borat est à l'humour anglo-saxon ce que la figure de Monsieur Presgovic de Père Noël est une ordure est à l'humour français. Les doubichous en moins, et sachant que Borat vient d'un pays encore plus à l'Est que Monsieur Presgovic, un mot déjà de sa famille. Vous allez voir, ça va vous réconcilier avec la vôtre. Vous trouvez votre famille dysfonctionnelle? Vous ne supportez plus que votre ado réponde à chacune de vos questions par « m'en fous ! » Que votre oncle commence chacune de ses phrases par « je suis pas raciste, mais rassurez-vous et écoutez !» Borat, lui, est le fils de Assimar Bara Sadiguiev et d'un dénommé Bortag le Violeur, qui est aussi son grand-père maternel. Première subtilité incestuo-généalogique à noter. D'après sa biographie officielle, il ne serait pas le fruit d'un amour sincère et consenti puisque sa mère aurait déclaré, je cite, qu'elle aurait préféré être violée par un autre homme. Borat a une sœur, Natalia, présentée dans le film comme la quatrième meilleure prostituée du Kazakhstan. Oh. Sœur avec laquelle il a régulièrement des rapports sexuels sans qu'on sache s'ils sont tarifés ou pas, ou s'il a une forme de ristourne en tant que frère, peut-être une carte famille ou quelque chose du style. Il a aussi un petit frère, Bilo, attardé mental et en permanence enfermé dans une cage. Côté cœur, Borat a été marié à plusieurs reprises, notamment une fois avec sa demi-sœur, Ploug, et Oksana, une autre de ses demi-sœurs. Oui, Stéphane, on dit souvent de l'amour qu'il frappe à la porte, mais dans certaines contrées, il a déjà les clés puisque ça reste en famille. Malheureusement...
Enfin, les pharaons d'Égypte épousaient leurs sœurs.
Tout à fait, c'est pas nouveau. Malheureusement, Oksana a été tuée par un voisin, Stéphane, qui l'aurait confondu avec un ours lors d'une promenade dans la forêt.
C'est à cause des poils.
Par nature, ça doit être ça, un garçon très résilient, Borat parvient à se remettre de ce coup dur en s'achetant une nouvelle épouse.
On savait vivre à l'époque.
Oui, mais sauf que ça se passe aujourd'hui, Stéphane, c'est ça le problème. D'où la polémique et la censure dont a été victime le film dans certaines parties du monde, j'y viens. Car selon ses détracteurs, le personnage de Borat, un misogyne homophobe ayant appris l'anglais dans le mode d'emploi d'une yaourtière, couchant avec sa sœur, vivant avec un porc et dont le seul talent est de pouvoir décapsuler une bouteille de Pepsi avec son anus, ne donnerait pas une vision très réaliste de ce beau pays qu'est le Kazakhstan. D'où la réaction un peu soupolée des autorités kazakhstanaises, j'insiste sur le kazakhstanaise, oui. Puisqu'on a eu un débat là-dessus, au moment de la sortie du film en 2006, des autorités qui se sont élevées, je cite, « contre la description des Kazakhstanais comme un peuple de misogynes, de xénophobes, d'analphabètes et de buveurs d'urine de cheval ». Oh, ça va ! Pour l'urine de cheval, c'était une blague. Alors, évidemment, quand on connaît un peu l'humour de Sacha Baron Cohen, on comprend que le film est non pas une satire du Kazakhstan, mais une satire de la vision qu'ont beaucoup d'Occidentaux, et notamment d'Américains, de tous les pays situés à l'est de la mer Caspienne. Un journaliste expert en cinéma explique « Le film Borat a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour le Kazakhstan. Une bénédiction parce que ça a permis de faire connaître mondialement ce pays, le tourisme ayant connu un pic sans précédent suite à la sortie du film. Mais Borat a aussi été dévastateur pour l'image des Kazakhstanais. Kazakhstanais, qui sont dépeints dans le film comme des sauvages, des barbares et des animaux. Oui, c'est vrai que le film est une pub à double tranchant. Comme on pouvait s'y attendre, il est censuré. Le cocktail fornication familiale, herpès génitaux et mineurs en cage n'ayant pas fédéré, visiblement, il ne sortira ni au Kazakhstan, ni dans les pays frontaliers. Et la Russie aussi interdit le film. Sur le web, idem, le site internet de Sacha Baron Cohen a même perdu le droit d'utiliser leur .kz, l'équivalent du .fr pour le Kazakhstan. Quelques années plus tard, ce même pays a déposé un recours auprès du Comité Olympique d'Asie, exprimant sa colère après la diffusion de la musique du film Borat à la place de l'hymne national lors d'une cérémonie de remise de médailles. Le pire, c'est que sur le moment, en attendant ça, la tête en question a patiqué, et il a mis la main sur son cœur et il a pleuré en pensant à la mère patrie. Mais quelques années plus tard, le Kazakhstan retourne sa veste et finit par remercier le film d'avoir massivement contribué au développement du tourisme dans cet état d'Asie centrale. Borat devient leur héros national. Le ministre des Affaires étrangères a même déclaré lors d'une session au Parlement, après la sortie de ce film, le nombre de visas accordés par le Kazakhstan a été multiplié par 10. Je suis reconnaissant à Borat. Et comme dirait Borat lui-même, si Kazakhstan aimait Borat, Borat aimait Kazakhstan aussi et lui montrait. Cette année, Sacha Baron Cohen a en effet repris du service avec la sortie de Borat 2 sur Amazon Prime. Et alors, à chaque volet, ça censure. Cette fois-ci, l'une des plus grosses polémiques a eu lieu en France, en région parisienne. Une campagne d'affiches promotionnelles que vous avez peut-être vu pour le film est lancée sur les bus. Sauf que voilà, le Covid étant passé par là, et geste barrière oblige, le masque chirurgical a remplacé le string. Et il l'a remplacé, si vous voulez, comment dire ça ? Poste pour poste, c'est-à-dire que sur l'affiche, Borat n'est vêtu que d'un masque chirurgical qu'il porte non pas sur le nez, mais disons sur l'autre nez.
C'est celui d'en bas.
Voilà, voilà Stéphane. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui fait polémique sur l'affiche. Ce qui a choqué, c'est la bague qu'il porte au doigt et où on voit inscrit en petit « Allah » en caractère arabe. Si proche des testicules, ce n'est pas passé. Twitter a pris feu. La direction des transports intercommunaux Centre-Essonne a alors décidé de retirer l'affiche du film. Elle explique « L'affiche a été jugée non conforme à l'image que l'on veut donner de notre réseau. » Ça, c'est une question qui se pose et je ne pensais pas avoir à me la poser un jour dans ma vie. Quelle image les transports intercommunaux Centre-Essonne ont-ils voulu donner jusqu'ici ? On transporte les gens Enfin, mystère de la communication. Outre-Atlantique aussi, ce second volet des aventures de Borat a fait parler puisque dans le film, le faux journaliste Borat interagit avec de vrais Américains, évangélistes, amateurs de rodéo, étudiants, cherchez l'intrus, et dresse en creux un portrait délicieusement satirique de l'Amérique profonde. Il s'infiltre même au sein d'une conférence républicaine. Déguisé en faux Donald Trump, conférence à laquelle participe le vrai vice-président Mike Pence, Mike Penis, comme il l'appelle malicieusement dans le film. Dans quel but ? Eh bien, lui remettre un pot de vin de la part du président kazakhstanais. Pot de vin en nature, puisque ce cadeau, c'est tout simplement la propre fille de Borat, âgée de 15 ans, qui porte sur son dos. Quelle sera la réaction de Mike Penis ? Ben, il faut le voir dans le film, c'est très très gratiné. Et ce qui est particulièrement savoureux, c'est donc ce mélange entre fiction loufoque et incursion dans la réalité, notamment dans l'Amérique de Trump, puisque Sacha Baron Cohen s'est retrouvé confiné chez deux ardents militants trumpistes avec qui il échange des considérations comme par exemple...
C'est quoi le plus dangereux ? C'est le virus ou les démocrates ?
Démocrates.
Démocrates.
Les démocrates plus dangereux que le virus. Réaction de l'ancien président Donald Trump en réponse au film. C'est un type bizarre et je ne le trouve pas drôle. Réponse de Sacha Baron Cohen. Donald, merci pour la pub gratuite pour Borat et je dois reconnaître, je ne vous trouve pas très drôle non plus. Drôle, pas drôle, borderline ou de l'autre côté de la border, faites-vous votre avis. Le film est dispo sur Amazon Prime. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Stéphane Lay, il vous accueille chez lui. 18 rue de l'Abbaye Thiron-Gardet. Je vous donne le code du portail en MP.
Merci Mathieu. C'était 99% vrai, il y a donc 1% de faux si j'ai bien compté.
Qu'est-ce qui est faux ? Tout est fou.
Tout est faux.
Non, je vous ai mis une musique qui n'est peut-être pas celle qui a été diffusée au moment de la remise de la médaille. Vous savez, quand ils se sont trompés sur l'hymne national.
Ah oui.
J'ai mis une musique, de Borat, mais je ne sais pas si c'est celle-ci qui est passée lors de la remise de l'hymne. Et la personne, l'athlète en question n'a peut-être pas pleuré la main sur le cœur. C'est moi qui en ai un peu fait des caisses. Mais il y a quand même un recours qui a été déposé.
J'espère qu'il vous sera beaucoup pardonné, surtout au Kazakhstan. Merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est la dernière ligne droite dans Historiquement vôtre, celle où on s'intéresse à ce que l'histoire peut nous apprendre de notre quotidien. Avec vous notamment, David Castello-Lopez, vous semblez en douter vous-même de votre thème du jour.
C'est le quotidien en fait, qui toujours, ça ne nous apprend pas grand-chose sur notre quotidien peut-être. c'est l'ornithorynque.
J'ai pensé encore ce matin.
Première chose quand même, d'ailleurs tenez Olivier, puisque vous faites le malin. Petit test cruel pour vous, est-ce que vous pouvez m'épeler le mot ornithorynque s'il vous plaît ?
Allez. Ça commence par un O, je crois.
Oui. Oui.
R.
Oui.
N.
Oui.
I.
Oui.
T.
Oui.
H.
Oui.
O.
Oui.
R.
Oui.
I.
Non, c'était en Y. YNQE, mais quand même pas mal. Il y avait quand même deux petites difficultés dans le début du mot, et vous les avez passées. Bon, alors, maintenant, sérieux, c'est quoi cet animal, hein?
C'est un animal chelou.
Mais l'ornithorynque, on dirait un dessin de collégien puceau qui essaie de mélanger les animaux.
Oui, c'est vrai.
Non, parce qu'il faut voir, c'est à la fois une sorte d'oiseau, puisqu'il a un bec de canard et qui pond des œufs. C'est aussi un castor qui nage comme un castor et qui a un pelage de castor. Mais c'est aussi un peu quand même un serpent. Parce que je sais pas si vous savez, mais l'ornithorynque, ça pique.
Ah non.
Ils ont un dard venimeux au niveau de leur patte arrière. Et pour couronner tout ça, il y a quand même le summum du n'importe quoi. Les ornithorynques sont fluorescents. Voilà, voilà. Si on les met sous la lumière noire, ils brillent comme en boîte de nuit.
Est-ce que ça se mange?
Je pense qu'on peut. Je sais pas si c'est très bon, mais c'est vraiment.
L'ornithorynque à la béchamel.
Les animaux ne l'intéressent que quand ça se mange.
C'est complètement nimps. Mais alors, du coup, moi, quand c'est tellement n'importe quoi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Depuis quand est-ce qu'ils existent, les ornithorynques? Alors, pour le comprendre, si vous voulez bien, je vais faire une mini chronologie de l'évolution des espèces qui va remonter très très loin. Alors, d'abord, il y a eu les organismes monocellulaires, hein, genre les bactéries. Et puis un jour, les bactéries, elles se sont dit, tiens, si je fusionnais avec une autre bactérie. Non, parce que je les connais, les bactéries, vous voyez, elles sont comme ça, elles sont à fond. Bon, ensuite, il y a eu les éponges, et puis il y a un moment où une grande partie des gens dans le monde, c'était des poissons. Voilà, c'est-à-dire que si vous vouliez...
C'est votre manière de schématiser l'histoire, c'est-à-dire que quand on vous a dit, ici, on vulgarise l'histoire, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment pris au pied de la lettre.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à cette époque, hein, où tout le monde était des poissons, si vous vouliez être en vie, il fallait être mouillé. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, la clé pour les poissons qui voulaient réussir dans le business d'être sur la terre ferme, c'était de trouver une façon de ne pas devenir tout sec quand ils sortaient de l'eau. Il y en a qui ont réussi et ça a donné le groupe des amniotes. Et j'ai l'honneur de vous dire, Olivier, Mathieu, Stéphane, que dans cette pièce, nous sommes tous des amniotes.
Ah non, non, moi je refuse.
C'est pas, vous,
c'est le Saint-Esprit qui vous a créé, Stéphane, c'est ça. Hein.
Oui,
c'est pas très précis comme point commun parce qu'on le partage aussi avec les tortues, les Yorkshire et les vaches à lait. Mais quand même, je trouve que c'est une bonne base pour qu'on s'entende bien tous ensemble. Alors, une partie des amniotes se sont devenus des thérapsides et ces thérapsides, ils avaient pour certains des caractéristiques un peu de reptiles, genre ils pondaient des œufs, et aussi des caractéristiques de mammifères. Et les thérapsides, Mathieu, Stéphane, Olivier, ce sont les derniers ancêtres en commun que nous avons avec les ornithorynques. Parce qu'à ce moment-là, il y a 166 millions d'années, un mardi, eh bien la branche qui comprend les ornithorynques s'est séparée de la nôtre. Et contrairement à notre branche qui contient un nombre gigantesque d'animaux, du kangourou à la souris, au singe, à l'antilope, eh bien la branche des ornithorynques, il n'y a pratiquement que eux dedans. C'est la famille des monotrèmes. Monostrema en grec, ça veut dire un seul trou. Et oui, parce que c'est encore une autre caractéristique chelou des ornithorynques. Oui. Ils ont un seul trou pour faire ce que les êtres humains font avec deux, voire trois trous différents. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire.
Théorie des
Alors,
trous.
C'est-à-dire manger, déféquer et se reproduire.
Non,
et
c'est pas ces trois fonctions-là.
Mais pourquoi vous pensez à ces fonctions-là en premier, Stéphane Sédan? Respirer?
Non, c'est plutôt le trou de derrière, si je peux.
Ben oui, mais on l'a dit.
Mais pas respirer, du coup, ils ne respirent pas par là.
Ah bah, je sais pas s'ils ont un seul trou pour tout faire, il faut bien qu'ils...
Pas pour tout faire, pour faire ce qu'il nous faut deux ou deux. On fait plus que trois choses, non?
Oh, je ne sais pas.
Oh là là, je comprends plus rien.
Racontez-nous.
Déféquer, faire pipi, et aussi pondre des œufs. Voilà.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est d'accord. Oui, ça va.
C'est un 3 en 1, d'accord.
C'est un 3
en 1. C'est pratique en même temps.
Mais alors, pourquoi est-ce que, il a pas évolué comme le reste des mammifères pour devenir un animal un petit peu plus présentable? Alors, l'ornithorynque, il vit uniquement en Australie. Et il y a très longtemps, les ornithorynques, ils étaient probablement plus normaux qu'aujourd'hui, dans le sens où ils ne vivaient probablement pas dans l'eau. Et là, il y a 60 millions d'années, un jeudi après-midi, l'Australie a été envahie par les marsupiaux, c'est-à-dire en gros des kangourous, qui ont tué à peu près tous les ancêtres de l'ornithorynque. Mais un petit nombre d'entre eux, ils ont pu se réfugier dans l'eau, là où les kangourous ne pouvaient pas aller les chercher. Et c'est probablement comme ça que l'ornithorynque est devenu un animal adapté à l'eau, avec un bec chelou, tout ça. Et 60 millions d'années plus tard, il existe toujours et il me permet de faire des chroniques rémunérées. Alors merci l'ornithorynque.
Merci l'ornithorynque et ses trois
points. Mais quel rapport avec le quotidien?
Est-ce que
vous saviez, David, une autre particularité de l'ornithorynque femelle? Elle a deux ovaires, mais seul le gauche fonctionne.
Mais c'est alors
qu'est-ce que vous racontez, Stéphane? Mais quel serait l'intérêt? Dans la nature, tout a un sens. Pourquoi il y aurait deux ovaires et un seul
pour fédérer? Je ne sais pas, écoutez, moi, j'ai voulu aller voir où était le trou de l'ornithorynque. J'ai donc tapé sur mon téléphone.
Ça y est, vous avouez.
Ça y est. Ben là, je voulais voir comme vous tout à l'heure pour voir les Kazakhs ou les Kazakhstans ou les Kazakhstanais. J'ai voulu regarder à quoi ressemblait un ornithorynque.
Non, c'est vrai, on a des trucs comme l'appendice dans le truc qui ne sert à rien, donc peut-être ça touche au compte ovaire.
Un jour, ça va disparaître d'ailleurs. C'est comme notre dernier, le cinquième doigt de pied, il va disparaître un de ces jours.
Le vrai mérite de la chronique de David, en fait, c'est que l'explosion de recherche avec ornithorynque sur Google va être fracassante.
Ah dans oui, les ça va être dans les top recherches.
Ah oui.
Ça va être dans les tendances. En tout cas, merci David. Oui. C'est toujours passionnant. Et puis votre façon de raconter. Moi, j'avais l'impression d'être ce fameux jeudi, là, il y a 166 millions d'années. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Oui, Stéphane. Et avant que nous perdions notre cinquième orteil, on ne sait pas trop pourquoi, c'est votre théorie évolutionniste.
Parce qu'on ne l'utilise pas.
Oui, ça appellera quand même des précisions scientifiques, peut-être. On va parler de quelque chose de très quotidien. On passe des ovaires de l'ornithorynque à la mayonnaise, chers amis. Il n'y a que dans Historiquement Vôtre, quand un tel changement d'univers
c'est
est possible.
C'est bien vendu, c'est
à
bien
tout
vendu.
Tout de suite avec Olivier Pouls.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Messieurs, ce soir, pour réenchanter le confinement, pourquoi ne pas mettre les petits plats dans les grands et préparer à votre compagne un délicieux dîner aux chandelles? Répandez quelques pétales de rose sur le parquet, allumez quelques bougies, mettez un disque de Stan Getz. Puis une fois à table, saisissez la main de votre compagne, regardez-la dans le blanc des yeux et dites-lui...
Est-ce que vous aimez les pieds de porc ?
Olivier Pouls, notre expert gastronomique, mais pas romantisme, est avec nous. Chaque jour, une recette et l'histoire de cette recette.
Détrompez-vous, mon cher Mathieu, vous savez, il y a probablement de très jolies jeunes femmes qui adorent les pieds de porc.
Oui,
ça peut être une technique comme une autre pour
j'en
arriver
connais.
À vos fins.
Un peu moins c'est bien, c'est tout, mais comme une... Alors aujourd'hui, pas de pieds de porc à l'horizon, mais
un bol de mayonnaise.
Une bonne mayo maison.
Ça sert à plein de choses, la bonne mayo maison. Alors, la mayonnaise, c'est assez compliqué d'en connaître exactement l'origine. Et je vais vous dire, les historiens ne sont même pas tout à fait d'accord.
Il avoue sa défaite avant même d'avoir commencé.
Mais non, parce qu'il y a beaucoup de théories qui existent. Il y en a une qui est assez solide et qui dit qu'elle serait née en 1756 en Espagne.
Un mardi à 12h.
Un mardi, mais plus tard dans la soirée, puisque dans la ville de Mahon, qui est la capitale de Minorque, que le maréchal de Richelieu avait pris la ville et il a voulu fêter sa victoire avec un grand banquet. Malheureusement, son cuisinier n'avait pas grand-chose pour faire la sauce. En gros, il restait des œufs et de l'huile. Il a mélangé tout ça et il a fait cette sauce qui aurait été donc baptisée mayonnaise en hommage à la ville de Mahon. Ça, c'est une théorie. Il y en a une autre qui dit que en réalité, la mayonnaise viendrait d'une autre sauce plus ancienne qui s'appelle la rémoulade, qui existait. Et la rémoulade, c'est en fait une émulsion également, mais qui est obtenue non pas avec du jaune d'œuf, mais de la moutarde. Et qu'ensuite, le jaune d'œuf aurait remplacé petit à petit la moutarde. Moi, j'ai toujours été assez ébahi et époustouflé par ces idées. Comment un type un jour se dit « mais je vais mélanger du jaune d'œuf et de l'huile et ça va donner un truc qui va se tenir et qui
il y a
va...
de la moutarde aussi dans la mayonnaise.
Alors pas dans la véritable mayonnaise.
Sacre bleu, Stéphane, vous déraillez.
Non. Alors quand on rajoute de la moutarde, ça ne s'appelle plus une mayonnaise, ça s'appelle une remoulade. Dans l'authentique, dans la vraie mayonnaise, qui est donc une émulsion, il y a des jaunes d'œufs, du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre, c'est tout. Alors, ce qui est extraordinaire dans la mayonnaise, c'est le procédé physique qui permet à cette sauce de tenir. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est un mélange stable de deux substances liquides qui, normalement, ne sont pas miscibles entre elles. En gros, de l'eau, qui est contenue dans le vinaigre et dans le jaune d'œuf, et, évidemment, l'huile. Et vous savez, mon cher Mathieu, mon cher David, mon cher Stéphane, vous avez appris ça en physique, que quand on mélange l'eau et l'huile, ça marche pas.
Ça marche pas, ça. C'est ça.
Ah oui. Eh ben, l'émulsion, elle est rendue possible grâce à des protéines qui sont contenues dans les jaunes. Et donc, c'est ces petites protéines qui vont permettre à l'huile et à l'eau de s'attacher ensemble, de se solidifier. Et d'ailleurs, vous remarquez que quand vous faites une mayonnaise et que vous la réussissez, à partir d'un certain moment, au plus vous rajoutez d'huile, au plus la mayonnaise devient solide et vous pouvez presque en faire d'une quantité infinie. C'est-à-dire que l'huile, à partir du moment où elle a commencé à s'accrocher avec l'eau, eh ben c'est parti, vous avez une mayonnaise qui devient de plus en plus épaisse et de plus en plus solide. Alors, pour la réussir de manière infaillible, mon cher Mathieu. Je vais encore être obligé de reprendre mes cours parce que vous ne m'avez pas bien écouté la
dernière
fois.
J'ai été votre pire élève sur la mayonnaise.
Il y a quelque chose qu'on doit oublier. Il y a une théorie qui dit qu'il faut que tous les ingrédients soient à la même température. C'est de la foutaise. Ce n'est pas vrai parce que ça n'impacte pas. Non, mais on entend y compris des grands chefs dire ça, mais scientifiquement, ça tient pas la route 2 minutes. Tout ce qu'il faut en fait, c'est réaliser donc cette émulsion lentement. Donc vous allez prendre vos 2 jaunes d'œufs, vous allez rajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, vous allez déjà bien mélanger tout ça tranquillement, et ensuite, tout en continuant avec un geste régulier et assez vigoureux à fouetter, vous allez incorporer l'huile, mais très lentement au départ. Quand on foire la mayonnaise, c'est qu'en général, on met l'huile trop vite.
Trop vite, oui. Mais donc il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit lent, mais vigoureux quand même.
Voilà,
comme
lent et vigoureux.
Comme beaucoup de choses, David. Comme beaucoup de choses, et c'est ça, à mon avis, qui vous manque souvent. C'est ce qu'on m'a dit.
Voilà, alors bien sûr, Stéphane, rien ne vous empêche de rajouter une cuillère de moutarde dedans. Personnellement, je le fais, et c'est vrai que c'est meilleur, ça donne un peu plus
comment marqué. Ça, tu le fais quand tu me fais de la mayo, tu mets de la moutarde dedans?
Moi, je mets souvent de la moutarde dedans, bon. Hein, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que la mayonnaise, après, c'est ce qu'on appelle une sauce mère, une sauce de base qui sert là à se démultiplier.
On peut mettre un peu de piment dedans, ça fait la sauce samouraï.
Voilà, exactement.
Comme
on
dans
peut
les
mettre
tuches.
Du ketchup, on peut mettre plein de choses.
Stéphane?
Vous êtes plutôt
ketchup ou mayo, Stéphane?
Moi, je suis plutôt mayo parce que le ketchup est américain, donc
par principe.
Et par principe, mais surtout, j'adore la mayonnaise. Oui, c'est excellent.
Une vraie bonne mayonnaise maison, c'est fantastique.
Surtout, ce qui est fou, si par hasard, en nous écoutant, vous n'avez jamais mangé de mayonnaise maison, il est absolument impossible de trouver une mayonnaise industrielle, même soi-disant, qui ressemble à la mayonnaise qu'on obtient à la
jamais
maison.
Le même
c'est
goût,
un des rares trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses de manière industrielle qui sont quand même assez réussies ou proches de l'original. Là, la mayonnaise, c'est unique.
Elle est plus aérienne, la mayonnaise faite maison, quand même.
Non, elle a un autre goût.
Non, c'est un autre goût.
C'est un autre goût.
Mais c'est aussi ce qui est très important dans le goût de la mayonnaise, c'est la qualité des œufs. On n'en parle jamais assez, mais des vrais œufs de ferme, et notamment des jaunes œufs.
On en parle déjà beaucoup, mais pas assez.
C'est très important. Et je sais que Stéphane a des œufs de première qualité et ça doit donner à sa mayonnaise un goût très particulier.
Absolument. Et ils ont le nom des poules. Voilà, chaque fois. Écoutez, je vous remercie, Olivier. Comme toujours, on peut retrouver vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Et c'est là qu'on retrouvera tout à l'heure, quand vous l'aurez faite, la chronique de Stéphane Merne, le mot de la fin chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, on trinque, Stéphane.
Oui, chin-chin.
Chin-chin, mais d'où ça vient?
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'histoire, c'est aussi l'histoire des mots et des expressions. Oh, je l'avoue volontiers, bien souvent je réalise que je ne connais pas l'origine d'expressions que pourtant j'emploie. Quand je me creuse la tête pour essayer de les comprendre, Stéphane me dit
« On dirait une de mes poules qui essaye de faire un œuf. »
C'est pour ça que votre chronique est si importante. Voici le mot de la fin de Stéphane Bern.
Oui, chin-chin. Alors bon, c'est vrai que ça fera plaisir à Olivier parce qu'on n'a jamais été aussi près de l'apéro. Et la question reste posée, pourquoi, quand, avec modération bien sûr, on trinque, on s'exclame avec joie, eh bien, ces deux onomatopées qui rappellent le bruit des flûtes qui s'entrechoquent.
Stéphane, je voudrais pas enterrer déjà votre chronique qui vient de démarrer, mais justement, est-ce que c'est pas l'explication de la formule? C'est-à-dire, on dit chin-chin pour imiter le bruit des verres?
Eh ben non, justement, sinon ça serait pas de jeu. C'est pas du tout ça, en tout cas pas totalement. En 1900, lors de la campagne de Chine, un contingent de soldats français se trouve dans la région de Canton. Pour inviter des hôtes à boire, on dit « je vous en prie », soit en version originale « chin chin ». Une fois rentrés en France, les militaires gardent cette façon de trinquer et une mode est lancée. Tout le monde, dorénavant, dira « chin chin ». Notez, et c'est amusant, que pour dire chin-chin en Chine, on dit gambei. Au Japon, faites très attention, si vous dites chin-chin, ça veut dire pénis. Quand on trinque...
Vous l'avez doublé, c'est bien.
Quand on trinque au Japon, on dit plutôt kampai. Notez qu'à l'origine, on trinque violemment en entrechoquant les verres pour que les liquides se mélangent. Vous connaissez évidemment la raison. Au Moyen-Âge, les empoisonnements étaient légion. Ainsi, on limitait les risques. C'est la même raison qui veut que quand on boit la première gorgée, on se regarde dans les yeux pour éviter qu'on mette un liquide dangereux dans votre boisson. C'est plus convivial, mais en même temps, la confiance règne. Vous saviez, hein? Et puis alors, les gens disent bêtement, si on se regarde pas dans les yeux, c'est 7 ans sans sexe. Je vois pas le rapport, d'ailleurs. mais c'est en fait, c'est lié à une tradition ancienne qui fait que on faisait en sorte que les liquides se mélangent pour être sûr que l'autre ne vous avait pas empoisonné et on vérifiait ça dans le regard de l'autre.
très 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 beau numéro du mot de la fin. Stéphane, c'est merveilleux. Replongeons-nous quand même dans la magie du Japon. Et trinquons. Qu'est-ce que vous me diriez, Stéphane ?
Kampai !
Non. Dites-moi. Ah oui, non, oui.
Oui, au Japon, on dit
Kampai. Non, on dit Kampai. J'ai essayé de vous piéger, je me suis piégé. Il ne faut pas dire Chin-Chin au Japon. Car Chin-Chin signifie, Stéphane, rappelons-le.
Pénis.
Bah voilà, pénis. Merci. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur cette note chic. Messieurs les censeurs, au revoir. Aujourd'hui, on aurait évoqué trois victimes de la censure à travers les âges. Quel censuré vous a le plus ému, Stéphane ? Baudelaire ou ceux qui s'appelaient quasiment pareil, Socrate et Borat ?
Écoutez, d'abord, on a eu des intervenants exceptionnels aujourd'hui, de qualité. Jean Tellet, évidemment, qui parle de Baudelaire, il vous rend Baudelaire encore plus passionnant. Et puis, Monsieur Ismar aussi, sur Socrate. Donc, vraiment, j'ai passé un très bon moment et cette émission m'a passionné.
Eh bien, tant mieux, j'espère que nos auditeurs aussi, Stéphane, que cette émission les a passionnés autant que vous. Savez-vous déjà ce qui nous attend demain ?
Ah bah oui, demain. Oh les pinces ! On réunit trois avares, trois grippe-sous de l'histoire. Etty Green, dites la sorcière de Wall Street. L'homme d'affaires dur en affaires, Jean-Paul Getty.
Et Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, qui avait lui aussi des oursins en kit dans les poches.
Oh, vivement demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.